Loire Mag, le podcast. Chaque mois, RCF, en partenariat avec le département, vous propose de partir à la découverte des femmes et des hommes qui font vivre notre territoire ligérien.
Bonjour, bienvenue dans ce numéro de Loire Mag, le podcast de janvier 2021. Déjà 6 numéros que nous sommes ensemble autour et en écho à Loire Magazine proposé par le département de la Loire. Le thème central sera en quelque sorte l'avenir. Alors on dira en début d'année, ça tombe bien, effectivement. Nous commencerons par parler de l'école et particulièrement du collège. Tout cela évolue et le département accompagne ce mouvement pour faciliter bien sûr la réussite des futurs citoyens, voire imaginer avec elle l'avenir de la jeunesse ligérienne. Ce sera notre dossier avec Michèle Maras, vice-présidente en charge de la jeunesse des collèges et des ressources humaines au département de la Loire. Et puis nous entendrons ensuite Noémie qui, justement au sujet de l'avenir, a proposé d'inventer le métier de connecteur de sourires. Tout cela en réponse à un appel à projet, un concours sur la vie d'après entre les deux confinements. Ce sont 50 jeunes ligériens de 10 à 18 ans qui y ont répondu. Elle a obtenu le second prix. On parlera avec elle de ce métier qui pourrait bien exister dans quelques années, notamment au service des personnes âgées dans les EHPAD pour les rapprocher de leur famille. Ensuite, avec Ça bouge dans la Loire, nous entendrons Vincent Vacher, qui est président fondateur de la société Sans Distinction, cabinet de conseil en intégration du handicap, et on l'entendra parler justement de la création de cette entreprise et de l'actualité qui est la sienne avec la distribution gratuite de quelques 150 000 exemplaires d'un annuaire qui concerne toute la vie des personnes en situation de handicap, qui pour leur permettre justement de s'y retrouver parfois dans cette jungle un peu ébouriffante. Ça bouge dans la Loire encore avec les communautés 360 Covid. Elles ont vu le jour au printemps dernier pour répondre à plusieurs aux besoins des personnes en situation de handicap toujours. Évidemment, tout cela lié à la crise sanitaire. C'est une démarche que l'on peut retrouver partout en France. On verra comment cela se décline dans la Loire. Voilà, c'est Loire Mag, le podcast. Merci à Emmanuel Bussière pour la mise en onde.
Loire Mag, le podcast, au cœur de la vie de notre département de la Loire.
Je le disais en commençant, donc l'école évolue et le département accompagne donc ce mouvement pour faciliter la réussite des futurs citoyens. Il s'agit même d'imaginer avec elle l'avenir de la jeunesse ligérienne.
Loire Mag, le dossier.
Plantons d'abord le décor. Savez-vous que notre département compte 50 collèges publics pour 27 800 élèves et 26 collèges privés qui accueillent, eux, un peu plus de 11 000 élèves. Pour gérer le quotidien non pédagogique de tous ces jeunes, ce sont 450 agents qui, en temps ordinaire, travaillent sur le terrain. La crise sanitaire, bien sûr, a bousculé les habitudes d'apprentissage, même si, avant elle, existait déjà le cybercollège, cet espace numérique mis en place par le département pour faciliter la communication entre élèves et profs d'une part, et profs, parents et administration d'autre part. Alors après l'année 2020 que nous venons de vivre, quel avenir peut-on imaginer pour les presque 40 000 collégiens de la Loire ? Imaginer et imaginer les collèges de demain, c'est justement l'une des préoccupations de Michèle Maras, vice-présidente en charge de la jeunesse, des collèges et des ressources humaines au département de la Loire.
Vous avez dit le mot « imaginer » quelque part. Et nous avons pu voir qu'avec cet épisode un peu particulier que nous vivons, au mois de mars, notre ENT ne pouvait pas répondre à de telles demandes puisque tous les enfants à ce moment-là étaient en distanciel. Nous avons dû renforcer cet espace numérique de manière à ce que tous les enfants puissent suivre à distance des cours, ce qui a été réussi. Après cela, nous avons renforcé aussi la distribution à la fois de PC, de tablettes, de manière à fournir aux enfants qui n'étaient pas détenteurs de cet outil, notamment à la maison.
Avant de parler de demain, parlons encore d'aujourd'hui, puisque tout semble acquis. Mais à la rentrée de septembre, les enfants avec les masques, l'organisation de façon à ce que la sécurité des enfants et des adultes autour d'eux soit la plus sûre possible. Il y a eu des choses à faire dans lesquelles le département s'est engagé, Michel Maras.
Nous avions organisé dès le mois de juin les choses de façon à accompagner les établissements, puisque les plans ont été établis établissement par établissement, et puisque c'est de la responsabilité de chaque principal. Et nous accompagnons de mieux possible à l'adaptation aux désinfections par nos agents, à l'adaptation également au niveau de la restauration. Nous avons voulu la maintenir pour que les enfants aient un repas complet dès le départ, mais ça demande effectivement de la part de nos équipes, de la part de l'équipe éducative de l'établissement, une organisation, vraiment une adaptation complète. Et puis la gestion des personnels, parce qu'entre ceux qui sont malades, entre ceux qui sont vulnérables, ceux qui sont des cas contacts, ça nous demande de jongler journellement. Et pour la première fois, nous avons pris l'intérim comme service, puisque nous avons 17 établissements qui en ont bénéficié, et à raison de 50 personnes. Alors que nous avons 450 agents, dont une équipe mobile qui est faite au départ déjà pour remplacer chaque fois qu'il y a des absences. Mais la gestion du personnel était quelque chose de très lourd.
Cette période n'est pas finie. Tout ce que vous avez évoqué reste en place, bien sûr. Mais le collège de demain, on a donc déjà cet espace numérique qui a été évoqué dès le début de notre entretien, Michel Maras. Qu'est-ce que l'on peut encore imaginer, justement, je reprends le terme, pour, sinon 2021, du moins les années qui vont suivre?
Alors nous avons déjà, depuis la rentrée, distribué des kits visuels qui permettent d'adapter une salle en virtuel pour éventuellement faire des cours à distance sur une classe complète. Ça, c'était quelque chose que nous avions pensé il y a 2 ans et c'est ce qui nous a permis là de la proposer dès la rentrée.
On n'imagine peut-être pas bien ce dont il s'agit.
C'est un matériel très simple qui permet à la fois de prendre le son et de transmettre la visio et d'être en relation avec l'extérieur, mais sur l'ensemble d'une classe. Et nous avons aussi une expérimentation sur 10 collèges, des classes virtuelles par notre opérateur Cosmos. Donc vous voyez que déjà, nous évoluons et déjà, quelque part, nous intervenons sur une autre forme d'apprentissage.
Cosmos étant un prestataire local.
Qui travaille avec nous sur le cybercollège, sur notre espace numérique, et que nous faisons évoluer et nous travaillons cette évolution avec eux en continu. Nous travaillons dans le même temps, quand nous appelons le collège de demain, c'est-à-dire à savoir les futures implantations de nos collèges, mais aussi ce que nous allons proposer en matière d'espace. Nous allons travailler avec ce qu'on appelle l'IF, c'est un établissement de l'éducation avec des chercheurs qui nous permettent non seulement de définir de nouvelles architectures, mais également de nouveaux espaces et une manière de s'adapter à une nouvelle pédagogie. Et ce qui nous a fait plaisir, c'est que dans la vie d'après, la plateforme que nous avions lancée au département en direction de la jeunesse, le premier prix a été un jeune lycéen qui a proposé son espace tel qu'il l'imaginait. On lui a dit que ça tombait à point nommé et qu'on voulait bien l'introduire dans nos réflexions si ça lui faisait plaisir, parce que nous sommes complètement dans cette démarche-là. On sait que le numérique a modifié la manière de transmettre l'apprentissage, donc ça nous demande de réfléchir effectivement à d'autres espaces et à leur utilisation. Nous avons déjà commencé, nous avons 2 classes lab à Edmond Richard à Saint-Chamond, à Val-d'Ecrousseau, à Firminy, où les élèves évoluent déjà sur un espace de cette manière et expérimentent et nous font part de ce que ça produit. Et dans le même temps, nous sommes partenaires de l'Éducation nationale qui, elle, évalue ce que, du point de vue didactique, ça apporte à l'enseignement.
Ce sont des espaces ouverts, Michel Maras ?
Non, pas forcément. Ce sont des classes intérieures, mais dans lesquelles nous ne sommes plus sur des chaises telles que nous les avons, ni sur des bureaux. Ce sont des sièges qui se promènent. L'élève évolue d'un endroit à un autre de la salle. Tout le mobilier est adapté. Et c'est toutes ces conceptions-là que nous devons envisager. Et chaque fois que nous allons restructurer ou rénover un collège, nous allons nous appuyer sur ces innovations.
Que vous disent les élèves de ce vécu dans un contexte et un espace nouveau?
sont enchantés, les élèves. Hein. Dès que vous les accompagnez, dès que vous leur donnez la parole, ce qu'ils ont besoin aussi, c'est qu'ils aient la parole, ils sont en capacité de dire, à certains moments, le numérique nous va bien, mais à d'autres, on est content de retrouver notre stylo et notre papier. Ils passent de l'un à l'autre sans aucun problème. On parle du numérique, mais on voit qu'il est en perpétuelle expérimentation aussi, on voit que les choses évoluent très vite. Rien ne nous dit que ça va être l'essentiel dans l'apprentissage aujourd'hui. Ça ouvre l'esprit, ça ouvre à des connaissances. Est-ce que du point de vue didactique, ça apporte un plus ? Aujourd'hui, on ne nous le dit pas. Et c'est ce qui est en train de s'étudier.
Ça n'est pas votre premier mandat par rapport à la gestion des agents et des collèges dans le département, Michel Maras. Ce qui vous intéresse le plus, justement, c'est cette construction de l'avenir.
Vous savez, mon premier plaisir, c'est lorsque je vais dans un collège et que j'ai le temps de m'adresser à des collégiens. On n'est jamais déçu. On n'est jamais déçu parce qu'ils surprennent. Ils sont en capacité de faire des tas de choses. On le voit, nous, à travers les appels à projets que l'on lance pour les inciter à s'ouvrir, à travailler avec les associations externes à l'école. Vous savez, quand ils font leur présentation de travaux, je me dis que dans 10 ans, ce sont nos citoyens. Et je ne me fais pas du souci par rapport à ça, parce qu'ils ne sont pas toujours en train de se plaindre. Ils s'adaptent. Pour peu que l'adulte les accompagne et les encadre, ils sont pleins de propositions et ils ont surtout le désir d'avoir un espace de parole. Et lorsque nous avons rendu le résultat du jury dans la vie d'après, une jeune fille nous a dit ça. Elle a dit « Ce qui m'a fait plaisir, c'est que pour une fois, on écoutait et on prenait ma parole. » Et je lui ai demandé s'il pouvait y avoir un après cet exercice dans son projet et de quelle manière on pourrait ponctuellement prendre la parole du collégien, du jeune. Ils n'ont pas leur espace. Je le redis, ce collège de demain, c'est les citoyens aussi de demain. Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. L'instruction relève de l'éducation nationale. L'éducation, c'est l'affaire de tous. Donc, quelle part nous prenons, nous, département, dans cette construction ?
Michel Maras, vice-présidente en charge de la jeunesse, des collèges et des ressources humaines au département de la Loire. Alors justement, pour mieux imaginer avec les jeunes de la Loire le monde de demain, le département a organisé entre les deux confinements un concours intitulé « Le monde d'après ». Imagine le monde que tu veux pour demain, c'était donc la ligne directrice de ce concours. Et pour rester dans le domaine de l'école, sachez que le premier prix a été donné à Gauthier Sel de Saint-Chamond. Il a réalisé une animation vidéo en dessinant l'espace de travail d'une future classe de collège. Je vous propose maintenant de découvrir un visage, un jeune visage de notre département de la Loire.
Loire Mag, visage de la Loire.
En tout, ce sont 50 jeunes Ligériens de 10 à 18 ans qui ont participé à ce concours sur la vie d'après. Sur les thèmes de l'environnement, des transports, du commerce ou encore de l'enseignement, il leur était demandé de trouver des solutions pour un monde meilleur. Parmi eux, le second prix, Noémie Ovachet, qui, elle, a imaginé un nouveau métier, celui de connecteur de sourires. Une idée née de sa frustration de ne pouvoir voir son arrière-grand-mère durant le premier confinement. Noémie.
Eh bien, mon arrière-grand-mère, qui a 98 ans, elle est dans une EHPAD. Elle me manquait beaucoup, tout le monde lui manquait, elle pouvait pas sortir. Donc j'ai imaginé un métier qui pourrait nous mettre en contact avec elle sans danger, sans avoir besoin de la voir. Et puis en plus de la crise sanitaire, ça pourrait servir pour les personnes qui sont loin et qui ne peuvent pas aller voir les résidents souvent.
Alors cela consiste évidemment à mettre un écran, mais un vrai grand écran qui permette bien de voir les gens correctement des deux côtés, si je peux dire, de l'écran, et une pièce dédiée, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Donc ce serait une salle avec des murs blancs, avec un vidéoprojecteur pour que la personne âgée, elle voit bien sa famille presque en grandeur réelle. Ce métier, il consisterait à faire la maintenance des équipements, l'organisation du planning, aller chercher les résidents, les ramener, leur expliquer, tout ça.
Donc quelqu'un qui a à la fois une compétence technique et des compétences humaines.
Voilà, c'est ça.
C'est une véritable invention de nouveaux métiers. Ça ne demande pas énormément d'argent ni d'investissement de la part de l'EHPAD accueillante pour un tel emploi qui pourrait être extrêmement important, même en dehors de tout confinement, finalement, Noémie.
Oui, ce sera un vrai plus dans le choix des EHPAD pour les familles qui veulent placer une personne. Et puis c'est vrai que ça n'a pas un coût financier important, Et puis, c'est très simple à mettre en place.
Et du coup, le personnel soignant qui a été beaucoup mobilisé pendant le premier confinement en particulier pour amener les personnes, les accompagner. On sait qu'une personne âgée, ça se déplace parfois très lentement. Donc, si les soignants doivent s'occuper des autres, par exemple, ça peut être compliqué. Et là, du coup, avoir une personne connecteur de sourire, cela permettrait que les soignants ne soient pas mobilisés sur cet acte-là.
Oui, ça les soulagerait parce que... Dans mon cas personnel, quand je voulais communiquer avec mon arrière-grand-mère, c'était par l'intermédiaire d'un téléphone personnel d'une aide-soignante. Donc forcément, ça les mobilise beaucoup, donc là, ça les soulagerait.
Ça favorise aussi l'intimité, bien sûr.
Oui, il faudrait que la personne qui s'en occupe laisse la personne âgée dans son intimité pour qu'elle puisse parler librement, etc.
Ce concours, vous avez eu envie d'y participer. Pourquoi ce concours organisé par le département sur la vie d'après ?
Eh bien, j'avais déjà participé au concours Créateur d'idées organisé au niveau national. J'étais la gagnante de la région de Lyon.
Oui, et donc Auvergne-Rhône-Alpes.
Oui, voilà, c'est ça. Et j'ai vu l'annonce sur Facebook et ça m'a tout de suite plu. Donc, il a fallu réfléchir à une problématique qui se posait dans la vie de tous les jours à cause du coronavirus. Et j'ai trouvé cette idée comme ça.
Qui partait vraiment de votre vécu. Vous avez eu l'occasion d'échanger avec d'autres à propos de cette idée que vous avez eue, notamment des camarades à vous. Qu'est-ce qu'ils ont pu en penser ?
Eh bien, tout le monde trouvait que c'était une superbe idée et que c'était vraiment bizarre que ça n'existe pas encore parce que c'est tellement simple à mettre en place et c'est un vrai confort pour la famille et le résident dans l'EHPAD. Donc, tout le monde trouvait que c'était une bonne idée, facile à mettre en place.
Loire Mag, ça bouge dans la Loire.
Toujours dans cette émission Loire Mag, le podcast, ça bouge dans notre département, tout cela en lien avec ce qui concerne le handicap et les personnes en situation de handicap. Nous allons d'abord entendre Vincent Vacher, président fondateur de l'entreprise Sans Distinction, un cabinet de conseil en intégration du handicap. Également président de l'association Transverse, Vincent Vacher vient en effet d'éditer un guide à 150 000 exemplaires, distribué fin 2020 gratuitement dans des lieux œuvrant en faveur du maintien de l'autonomie en Auvergne Rhône-Alpes. Retour sur une success story avec cet entrepreneur que son handicap n'a jamais arrêté. C'est chez lui, dans sa ville du Chambon-Feugerolles, qu'il répond aux questions de Jean-Claude Duverger.
C'est un cabinet de conseil spécialisé en handicap. Le but, c'est de mettre fin aux préjugés et de construire un monde accessible à tous. Sans distinction.
Sans distinction. Vous êtes lourdement handicapé, on peut le dire, mais d'une autonomie très extraordinaire et vous avez fait des études brillantissimes, dites-nous.
Alors, j'ai réalisé un BTS spécialisé en management médico-social. Suite au BTS, j'ai réalisé une licence dans l'économie sociale et solidaire en alternance dans une association spécialisée en handicap. L'association Transverse, où ma mission était de coordonner des bénévoles et de mettre en place des événements.
Alors Transverse, c'est au Chambon-Feugerolles, votre ville, une ville où le handicap est mis vraiment en avant et pris en compte de manière étonnante.
Tout à fait, le Chambon, c'est une ville handicapante et je pense que c'est une vitrine en matière de handicap sur le département de la Loire.
Des études dont on voit bien qu'elles vous permettent de toucher à beaucoup de choses et d'acquérir des compétences que vous avez envie de mettre en action très rapidement.
Voilà, les ressources humaines, l'événementiel et la gestion de projet.
Avec tout ce background, si j'ose dire, vous vous dites, je vais créer mon entreprise. C'est un challenge quand même. Il y a d'autres entreprises de ce type ? Vous aviez des modèles ou...
Alors oui, tout à fait. L'aventure entrepreneuriale, c'était un rêve. Et je me suis dit, la thématique me plaît, m'intéresse et répond à un réel besoin. Le but aussi, je me suis dit, on va dans l'aventure dans le département de la Loire en proposant un service, un cabinet conseil spécialisé en handicap.
D'où le beau titre que vous avez choisi. Alors il faut le voir écrit, c'est sans S apostrophe, handi comme handicap, Stinction sans distinction, un titre qui est le cœur de votre métier.
Tout à fait. Construisons un monde sans distinction.
Expliquez-nous de quoi il s'agit.
Le cabinet, il propose des missions aux collectivités, aux sociétés, aux particuliers, de l'événementiel. Tout d'abord, on organise des événements sur mesure, tels des salons, pop-up séminaires en lien avec l'handicap, de la formation sur mesure spécialisée en handicap pour moi intégrer un collaborateur porteur d'handicap, des sensibilisations pour mettre fin aux préjugés dès le plus jeune âge avec des formules adaptées dès 6 ans à destination du tout public, ateliers culinaires, sportifs, ludiques, on s'adapte à nos clients. Et enfin, du conseil RH pour mettre en place une politique handicap.
Moi, je m'imagine handicapé. Il y a beaucoup d'organismes qui s'occupent de mon insertion, mais ça dure, c'est long, je ne trouve pas. Je viens vous voir, comment ça se passe?
Alors, dans un premier temps, on réalise un plan d'action. Et suite à ça, on met un accompagnement individualisé dans le but de s'insérer dans une démarche professionnalisante.
L'idée étant que la personne puisse trouver un travail dans un milieu ouvert.
Ordinaire, tout à fait.
Ordinaire.
Ou adapté si elle le souhaite. On s'adapte encore une fois aux besoins de la personne.
Ça veut dire aussi que vous avez des contacts avec des entreprises.
Voilà, tout à fait. On essaie de mobiliser un réel réseau pour permettre d'intégrer la personne au sein d'une société.
Et alors, ça marche?
Eh bien, écoutez, pour l'instant, les retours sont plutôt positifs. On a eu la chance d'attirer et d'accompagner une dame de Saint-Chamond qui souhaitait trouver un emploi depuis plus de 4 ans. Et en 4 semaines, on est arrivé.
4 ans et 4 semaines, c'est l'exploit là.
Tout à fait, c'était plutôt une réussite. On en est fiers et ça nous dit vraiment, on se dit vraiment, on répond à un réel besoin. Et ça nous conforte dans les valeurs qu'on souhaite.
Et donc, je le rappelle, Vincent Vacher vient de sortir avec sa société Sans Distinction un guide tiré à 150 000 exemplaires, distribué donc gratuitement dans des lieux qui œuvrent en faveur du maintien de l'autonomie en Auvergne-Rhône-Alpes. Les acteurs régionaux y sont répertoriés par secteur d'activité, matériel médical, emploi, mobilité, habitat, etc. Une édition digitale va être aussi disponible sur le site web de Sans Distinction, SANDISTINCTION.
RCF, la joie se partage.
Ça bouge dans la Loire toujours avec les communautés 360 Covid. Elles ont vu le jour au printemps dernier pour répondre à plusieurs aux besoins des personnes en situation de handicap, et cela lié à la crise sanitaire. Un domaine où la Loire était précurseur. Découverte d'une plateforme téléphonique inédite, c'est un reportage d'Emmaël. Elle a à son micro Nathalie Chapuis, la directrice générale de l'association Prisme 21 Loire, association à l'origine avec la PEP 42 du projet dans la Loire, sur lequel le département a beaucoup travaillé.
À la sortie du premier confinement, il a été imaginé de créer la communauté 360, chaque département ayant une communauté 360, de façon à répondre à des questions qui pourraient se poser sur la crise sanitaire, le déconfinement, les règles, les autorisations, etc.
Donc la communauté 360 porte un peu ce numéro général?
Alors voilà, la communauté 360, c'est le 0800 360 360. C'est des écoutants qui se répartissent un planning 7 jours sur 7 pour recevoir des appels de personnes en situation de handicap, de familles, de proches aidants, qui auraient des questionnements, des besoins de renseignements, des besoins d'aide aussi pour trouver des solutions. Et donc, une écoute est faite. Il est proposé à la personne de laisser ses coordonnées de façon à ce qu'un coordonnateur puisse le rappeler. Ce coordonnateur aura pour vocation de pouvoir bien cerner le besoin et la demande de la personne pour pouvoir articuler des réponses. Sachant que les réponses qu'on souhaite articuler émaneront principalement de ce qu'on appelle le droit commun. Le droit commun étant d'abord de voir, de façon à rendre les environnements inclusifs, si la société peut répondre à la demande de la personne sans forcément être obligée d'avoir recours à un établissement, une institution ou autre chose qui émanerait du droit spécifique.
Permettre à la personne de rester dans son environnement.
C'est bien cela, tout à fait. C'est un projet d'envergure d'abord départementale qui est porté, on va dire administrativement, d'abord par nos deux associations, mais fort heureusement, de nombreuses associations nous ont rejoints et nous sommes donc aujourd'hui 11 partenaires à copiloter cette démarche 360 ligérienne. C'est vraiment aux alentours de mi-mai que nous avons été informés de ce cahier des charges. L'Agence régionale de santé, la MDPH et le Conseil départemental nous ont rencontrés Alors Prisme et les PET pour voir comment on pouvait articuler ce dispositif avec tout ce qui existait. Donc l'idée, c'est bien d'être sur quelque chose de novateur qui puisse aussi s'appuyer sur un partenariat. C'est-à-dire que ce n'est pas Prisme 21 Loire ou les PEP qui avons les réponses, absolument pas. Elles sont systématiquement co-construites. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a une organisation qui fait qu'une fois par semaine, on reprend tous les appels qui ont eu lieu dans la semaine, en tout cas les appels qui nécessitent une prise en compte pour construire une réponse, et nous co-construisons la réponse. Voilà, donc nous allons l'articuler sur des choses nouvelles, mais en partant du point de vue de toutes les associations qui veulent bien se joindre à nous. Voilà. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que de mois en mois, le cercle des partenaires grossit et s'étoffe.
Et depuis début juillet, vous avez reçu de nombreux appels ?
Alors, on a reçu une petite centaine d'appels. C'est pas beaucoup, très sincèrement, par rapport à l'organisation que nous avons mis en place. Mais la campagne de communication ne commence que maintenant.
Et dans la centaine d'appels que vous avez reçus, est-ce qu'il y avait des questions qui revenaient très souvent ?
Les questions, elles sont principalement liées à l'épidémie sanitaire que nous traversons, c'est-à-dire sur le droit des personnes, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, qu'est-ce qu'elles peuvent pas faire, suivant des situations de handicap très particuliers, si je suis autiste, si je suis malentendant, etc. Toutes les dérogations possibles, c'est-à-dire le fait de ne pas être soumis à une durée de promenade ou à une limite au niveau du nombre de kilomètres. Le fait qu'il puisse y avoir aussi une personne qui accompagne la personne porteur de handicap dans ses déplacements. Voilà, c'était principalement des questions sur l'accès aux droits, d'accord. Et puis, on a eu quelques question aussi liée à tout ce qui est contact, éviction des établissements médico-sociaux, etc. Et comment il fallait qu'on soit attentif, en tout cas qu'on travaille avec ces établissements sur l'attention portée à des situations particulières, c'est-à-dire des familles qui pouvaient être en souffrance de récupérer les enfants à la maison trop longtemps.
Et donc cette communauté 360 a démarré pendant cette crise sanitaire, mais est oui. Destinée à perdurer
voilà.
Au-delà.
La crise sanitaire a précipité son démarrage, mais elle a bel et bien vocation à fonctionner d'une manière, on allait dire, de ce que j'appellerais plus normale, c'est-à-dire sans crise sanitaire, et ce qu'on espère sur l'année 2021. Donc il y aura toujours ce numéro de téléphone, 0800 360 360, et avec des appels possibles qui seront passés à ce numéro de téléphone 7 jours sur 7, en horaire journée, et avec la possibilité d'avoir des réponses adaptées à des besoins très particuliers, et qui ne relèvent pas uniquement d'une aide de l'État ou autre. C'est-à-dire, on est vraiment sur des choses qui peuvent être soit du ponctuel, soit au contraire des demandes sur plus du long terme. Et c'est vraiment l'idée d'accompagner la personne qui appelle dans l'expression de sa demande. Alors, je peux prendre des exemples. Je suis à la maison avec une personne qui est porteuse d'un handicap. Demain, j'en prends mes pattes, qui va devenir ma personne. L'idée, c'est de construire avec la personne en situation de handicap son devenir.
Alors, je le rappelle, ce numéro de 360, c'est le 0800 360 360, un numéro gratuit que vont apprendre à connaître les personnes en situation de handicap et leurs aidants, et qui leur permettra de trouver le maximum de solutions par rapport aux questions qu'ils peuvent se poser, notamment par rapport encore à la situation sanitaire. Cette émission s'achève. Un petit peu d'air pur avant de conclure.
Loire Mag, évadez-vous ici.
Eh bien, l'air pur, il est à trouver notamment à Chalmazel et au col de la Loge, qui depuis 10 ans n'ont jamais eu autant de neige, et malheureusement les remontées mécaniques ne sont pas autorisées à fonctionner, mais vous pouvez vous y rendre pour la luge, pour la raquette et pour notamment apprendre à skier. Cela concerne bien sûr les familles, les enfants. C'est un endroit extrêmement abordable sur le plan financier, et cela permet de façon très sécure d'apprendre dans un climat familial sympathique, peut-être un peu plus que certaines grandes stations plus éloignées des Alpes, voire des Pyrénées. Donc prenez l'air, faites attention à vous, et au mois prochain avec Loire Mag, le podcast sur RCF.
Loire Mag, le podcast sur RCF. Des témoignages et des rencontres avec des Ligériens pour entrer au cœur des missions du département.